Chapitre 14. Le plan que Madame Belloc avait improvisé pour enlever Marichette au corsaire était des plus simples. On convoquait un conseil de famille à Saint-Maclou, on le composait des deux cousins de la mineure, et pour compléter le chiffre fixé par la loi, on appelait quatre autres personnes qui prenaient la place des parents manquants. Devant ce conseil ainsi composé, Sylvain réclamait la tutelle, en faisait valoir les titres qu'il avait pour l'obtenir et en exposant discrètement ceux qui manquaient à son cousin. Il n'y avait même pas besoin d'insister, ces quatre personnes et le juge de paix, qui ne connaissaient que trop bien Belloc aîné, déféreraient la tutelle à Belloc jeune et le tour était joué. De par la loi, Marichette devait, jusqu'à sa majorité, demeurer chez son tuteur, et avant qu'elle atteignît sa majorité, le corsaire avait 10 fois l'occasion de se faire tuer. Mais lorsqu'elle étudia ce plan simple et qui lui avait tout d'abord paru d'une exécution si facile, elle fut déconcertée. Depuis longtemps, elle avait acheté un code et à chaque instant, elle le piochait au titre des successions et des donations entre vifs et des testaments, comme elle l'avait autrefois pioché à celui du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. Elle l'ouvrit au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation qu'elle n'avait jamais lu, car elle n'était pas femme à s'intéresser à ce qui ne devait pas servir ses besoins immédiats, et elle fut stupéfaite de voir que les choses ne pouvaient pas s'arranger comme tout d'abord elle l'avait imaginé. Comment ce n'était pas à Saint-Maclou que le conseil de famille devait être formé? C'était dans la commune où la tutelle avait été ouverte. Cela n'était-il pas absurde? Ce n'était pas la première fois qu'elle trouvait la loi absurde, mais comme elle l'avait déjà subie, il fallait bien la subir encore. Seulement, tout en la subissant, il n'était pas défendu de chercher à la tourner à son avantage, et ce fut à cela qu'elle s'appliqua, avec cette subtilité et cette finasserie qui faisaient le fond même de son esprit. Elle voulait, cette loi absurde, que le conseil de famille eût lieu à Paris. Eh bien, on lui obéirait, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Elle voulait aussi qu'il fût composé, non compris le juge de paix, de parents, ou à défaut de parents, d'amis, pris tant à Paris que dans la distance de 2 myriamètres. Eh bien, on lui obéirait encore. Seulement, on lui obéirait d'une façon intelligente. De parents, Marichette n'en avait point à Paris. Ceux du côté paternel habitant les environs de Bordeaux, et ceux du côté maternel, Simon Saint-Maclou, Sylvain Criquefleur, légalement, il n'y avait donc pas de parents à convoquer, et cela seul assisterait au conseil de famille qui voudrait bien se rendre à Paris volontairement. Il fallait donc arranger les choses pour que Sylvain seul allât à Paris, et cela semblait assez facile. Il n'y avait qu'à ne pas convoquer le corsaire, qui ne saurait ce qui s'était passé que lorsqu'on viendrait lui enlever Marichette, ce dont elle se chargerait elle-même et avec plaisir. Quelle tête il ferait! Il y aurait de quoi le tuer de rage! Il est vrai que, pour que cette combinaison réussît, il fallait qu'on indiquât au juge de paix les 5 amis du père et de la mère de Marichette qui devraient remplacer les parents et qu'elle ne savait même pas le nom de ses amis. Mais cela n'était point pour l'embarrasser. Elle avait plus d'une fois dans sa vie machiné des roueries autrement compliquées que celle-là. Tout de suite, elle courut chez la marchande de nouveautés à qui elle avait commandé la robe de Marichette et elle la pria si bien d'aller essayer cette robe dès le lendemain même que celle-ci ne put pas refuser. « Je vous donnerai une lettre pour ma cousine et vous tâcherez de la lui remettre en secret. Nous voulons, mon mari et moi, témoigner notre reconnaissance à quelques-uns des amis qui ont assisté sa mère dans sa dernière maladie. » Et M. Belloc aîné est un si vilain homme qui nous empêcherait de réaliser cette intention s'il la connaissait, rien que pour le plaisir de nous contrarier. Et en rentrant, elle écrivit cette lettre qui, en apparence, ne contenait pas autre chose que ce qu'elle avait dit à la couturière. « Ma chère cousine, après votre départ, nous avons longuement parlé de vous, mon mari et moi, et nous avons bien regretté de n'avoir pas pris les noms et les adresses des personnes qui ont été si bonnes pour votre mère pendant sa dernière maladie. Donnez-nous-les par écrit et n'en oubliez aucune, je vous prie. Il me semble me rappeler qu'il y en avait environ 6. Votre cousin veut, un de ces jours, leur envoyer en votre nom un panier de fruits ou de poissons. Je crois qu'elles seront sensibles à ce souvenir de reconnaissance qui leur rappellera agréablement une brave et digne petite fille. Nous vous embrassons tendrement, Célanie Belloc. Les enfants envoient une caresse à Monsieur Psitt. Si par malheur le corsaire avait connaissance de cette lettre, il n'y verrait que du feu. À corsaire, corsaire et demi. Avant 15 jours, ma Richette aurait quitté Saint-Maclou pour Criquefleur. Le lendemain, la couturière fut prête à l'heure promise et une voiture de Belloquet la conduisit chez Belloc aîné, de façon à arriver au moment où celui-ci devait être absent. En effet, il n'était pas chez lui et l'essayage put se faire dans la salle à manger en toute liberté. La couturière n'eut pas besoin de mystère ni d'adresse pour remettre à Marichette la lettre dont elle s'était chargée et celle-ci, tout émue de cette générosité de son cousin, put écrire à loisir les noms qui lui étaient demandés. Elle était en train de se rhabiller et la couturière enveloppait la robe dans une serviette quand Belloc entra. Surpris de voir chez lui cette couturière de Criquefleur qu'il connaissait bien, il s'arrêta. « Qu'est-ce donc que vous enveloppez, Madame Guibert ? » demanda-t-il. « C'est une robe. »« Une robe pour Marichette ? » dit-il. Puis, brusquement, s'adressant à Marichette, « C'est toi qui as commandé cette robe ?»« Non, mon cousin, » balbutia-t-elle. Alors la couturière, voyant son embarras, lui vint en aide. « C'est Madame Sylvain Belloc, » dit-elle de son ton le plus insinuant. « Ah, c'est Madame Sylvain Belloc !» s'écria-t-il avec colère. Mais tout de suite, il se calma et se fit souriant. « Vous la remercierez bien de ma part et vous lui direz que je lui suis très reconnaissant de s'être occupé de la toilette de ma cousine. Vous savez, les hommes ne pensent pas à ces choses-là. Je la remercie sincèrement d'avoir pris ma place. » « Et combien coûte cette robe ?» La couturière ne sut que répondre. « Mais c'est Madame Belloc jeune qui me l'a commandée, » dit-elle enfin. « Et c'est moi qui paie, puisque c'est pour moi que ma cousine a fait cette commande. » La couturière crut sortir d'embarras en gagnant du temps. « Je ne peux pas me faire payer avant d'avoir livré l'ouvrage. » Il n'était pas habitué à la contradiction. Si vous ne recevez pas tout de suite ce qui vous est dû, il sera inutile de livrer l'ouvrage, dit-il rudement. On ne l'acceptera pas. La couturière se décida. 60 francs pour l'étoffe et 30 francs pour les fournitures et la façon. Il plongea la main dans la poche de son pantalon et en tira une poignée d'or, dans laquelle il prit 4 pièces de 20 francs et 1 de 10 francs qu'il aligna sur la table. C'était son habitude, depuis qu'il s'était enrichi, de porter ainsi sur lui une assez grosse somme en or, dans laquelle il plongeait chaque fois qu'il avait un paiement à faire. Et son ostentation de parvenu s'en trouvait aussi bien que ses intérêts. Combien de pauvres diables à qui il offrait un paiement immédiat, à condition de subir une réduction, aimait mieux toucher 80 francs tout de suite que 100 à 3 mois. Quand la couturière sortit, il la reconduisit jusqu'à la porte en lui recommandant de bien remercier sa cousine. Puis, tout de suite, il revint à Marichette. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que cette coquine t'avait commandé une robe ?»« Nous n'avons pas parlé de mon voyage. » Et, de fait, il n'en avait rien dit. Belloc n'était pas chez lui quand elle était rentrée de Criquefleur et il n'avait vu ni l'équipage qui la ramenait, ni le paquet qu'elle rapportait. Il n'avait pas dîné à la maison et le matin, en déjeunant, il avait regardé plusieurs fois longuement, mais sans l'interroger, comme s'il dédaignait d'apprendre ce qui s'était passé dans cette visite. « Eh bien, maintenant, parlons-en, dit-il, et raconte-moi tout. Il faut que je sache comment s'est préparée cette injure qu'on vient me faire chez moi. Qui a eu l'idée de cette robe ? As-tu dit que tu en avais besoin ?»« Non, j'ai même voulu la refuser. » Elle fit le récit qu'il demandait, mais bien entendu sans parler des accusations. Quand elle dit l'insistance de son cousin et de sa cousine à vouloir la garder près d'eux, il interrompit. « Pourquoi faire ?» Et pendant qu'elle continuait, il parut réfléchir et chercher le pourquoi de cette insistance. Il ne redevint attentif que lorsqu'elle parla du châle et du fichu. « Tu as accepté ? » s'écria-t-il. « Et pourquoi n'as-tu pas accepté aussi de rester près d'eux ?
Parce que c'eût été de l'ingratitude envers vous qui m'avez accueilli. »
Mais cette réponse ne calma point sa colère furieuse. « Tu vas aller chercher ce châle et ce fichu, dit-il. Je me charge de les renvoyer. Tu ne dois rien accepter de personne, surtout de mes ennemis. Si cela se renouvelait, tu sortirais d'ici et tout de suite. »
Elle était tremblante.
« As-tu encore accepté autre chose ? » demanda-t-il.
« Non. »
Cependant, elle eut un remords. Tirant de sa poche la lettre que la couturière venait de lui remettre, elle la lui tendit. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » s'écria-t-il. Et de nouveau, il parut chercher, puis s'interrompant. « As-tu donné ces adresses ? »
« Oui. »«
Tu es donc stupide ?»
« Je ne savais pas mal faire, vous n'étiez pas là. »«
Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette coquine-là » murmura-t-il sans s'adresser à Marichette. Tout à coup, il alla à la cheminée et tira le cordon d'une sonnette. Le second commis arriva aussitôt. « Allez à la pierre à poisson, dit-il, et priez Lichet de m'acheter 6 bobards. » Puis, quand le commis fut sorti, « C'est moi qui vais envoyer un souvenir aux amis de ta mère. » « Toi, tu vas leur écrire en leur disant que c'est de la part de ton cousin Simon qui les remercie de ce qu'ils ont fait pour ta mère. Tu me montreras les lettres. »